day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bang Geek Mafia. Bang Geek Mafia, c'est votre émission d'infoculture tous les mercredis soirs de 19h à 20h. Aujourd'hui encore, une émission à distance. Tous les chroniqueurs ont hâte de pouvoir se retrouver autour de cette table, mais en attendant, ils pensent à vous et ils vont vous faire découvrir leurs coups de cœur, leurs actualités en cinéma, en livre, en BD, en musique, enfin, tout ce qu'on aime ici, de l'éclectisme. Et pour débuter cette émission, on va écouter No One is Innocent et La Peur. Nous, on a même pas peur sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point. Cette émission par le cinéma. Bonsoir Sébastien, je crois que ce soir tu voulais nous parler d'un acteur.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir je voudrais vous parler d'un acteur incroyable, Christian Bale. Christian Bale est de ces acteurs transformistes dont Hollywood raffole, un adepte des régimes spectaculaires pour un perpétuel yo-yo, de la maigreur extrême au surpoids ébouriffant. L'acteur gallois, qui vient tout juste de fêter ses 46 ans, est au centre de Vice, impitoyable satire politique d'Adam McKay dans la peau de Dick Cheney. Pour ce rôle de stratège hors pair, Christian Bale, crâne rasé et sourcils blanchis, prend plus de 18 kilos. Il exhibe un ventre gargantuesque, un cou de taureau épaissi par des exercices spécifiques et parvient à une ressemblance troublante avec l'homme politique qui, au sein de l'administration Bush entre 2001 et 2009, prit des décisions irréversibles dans les États-Unis post-11 septembre. Thriller psychologique ou film inspiré de faits réels, Christian Bale se plonge entièrement dans ses rôles, en digne héritier de la méthode immersive de l'Actor Studio, après Marlon Brando, Robert De Niro, Daniel Day-Lewis ou Meryl Streep. Pour lui, tout commence avec American Psycho en 2000 de Mary Harron, adapté du best-seller de Bret Easton Ellis, sur un col blanc tueur en série. Pour incarner ce personnage, l'acteur se sculpte un physique de gagnant, abdos d'acier, pectoraux surdéveloppés, à l'image de ce golden boy psychopathe obsédé par l'apparence. Mais c'est vraiment avec The Machinist de Brad Anderson en 2004 qu'il pousse la transformation à son extrême. Pour jouer un ouvrier tourneur insomniaque, les yeux exorbités, le visage creusé de façon effrayante et le corps décharné, il s'inflige un régime draconien. La légende raconte qu'il ne mange alors qu'une pomme et une boîte de thon par jour, fume beaucoup de cigarettes et se saoule au whisky. Objectif, perdre 28 kilos et passer sous la barre des 50 pour 1m83. Mais pour se glisser dans le costume bodybuildé de Batman, il a fallu reprendre apparence surhumaine. Chose faite en quelques semaines pour le tournage de Batman Begins en 2005, premier film de la trilogie sombre de Christopher Nolan. Dans cet opus, et dans les deux suivants de la franchise, l'acteur prend, en plus, une étrange voix caverneuse qui contribue à changer l'imagerie de l'homme chauve-souris. Christian Bale ne peut visiblement pas résister longtemps à l'appel de la souffrance. Après quelques rôles normaux, dans The Prestige, I'm Not There, il se relance dans un régime drastique pour Werner Herzog dans son film survivaliste Rescue Dawn en 2007. Il y incarne le prisonnier de guerre américain Dieter Dengler, qui réussit à s'échapper d'un camp laotien après avoir subi torture et humiliation en tout genre. L'acteur affiche moins 20 kilos au compteur. 4 ans après, rebelote pour Fighter de David O. Russell, en 2010, moins 13 kilos, dans la peau d'un champion de boxe déchu à cause de son addiction passée au crack, qui pousse son petit frère, Mark Wahlberg, lui aussi boxeur, à se surpasser. Adapté d'une histoire vraie, ce personnage lui vaut un Oscar du meilleur second rôle. American Bluff, nouvelle collaboration avec David O. Russell, aurait dû marquer la fin de ses extraordinaires régimes, cette fois 18 kilos en plus pour incarner un escroc ventripotent. Le passage à la quarantaine s'avère douloureux, même pour Batman. Son corps lui fait payer ses variations de poids avec une sévère hernie discale. Pourtant, à 44 ans, il accepte le rôle de Dick Cheney, très gros ventre à la clé. Ce rôle à Oscar lui vaut logiquement une nomination pour celui du meilleur acteur, attribué finalement à Rami Malek en Freddie Mercury. Voilà, Christian Bale, bodybuildé, décharné, voire totalement méconnaissable, en Dick Cheney bedonnant dans Vice, c'est l'as de la transformation physique.
Merci Sébastien. On enchaîne tout de suite avec AA, The Sun Always Shine on TV, et nous aussi, The Sun Always Shine en Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
The sun always shines on TV.
va changer complètement d'univers maintenant.
Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock?
C'est que le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec il a la guitare. Il est sur scène, il crache, mais.
Bah, si tu veux, bon, c'est simple, ouais. Le mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache.
Il crache c'est...
Alors que le bon hard rock, bon, le mec, il a la guitare.
Non, mais vois, il crache, toi.
Vois,
il crache,
ça n'a rien à voir.
Un jingle parfaitement adapté car aujourd'hui, pas de quiz, je vais vous parler d'un groupe et quel groupe, AC/DC, ou comment deux Écossais ont créé le plus grand groupe de rock d'Australie. Dans la famille Young, je vous demande les trois frères, George, Malcolm et le petit dernier Angus, né à Glasgow dans les années 1950. Ils débarquent en Australie en 1963. L'aîné George est le premier à connaître un succès avec un groupe des Easy Beats. Grosso modo, on est sur quelque chose qui ressemble aux Beatles. Ce succès déteint sur Malcolm qui rejoint un groupe, il s'agit du Velvet Underground, mais alors rien à voir avec celui américain de Lou Reed. Et il crée en 1973, une très bonne année d'ailleurs, son propre groupe de rock en recrutant Dave Evans au chant, et le petit frère arrive ensuite pour devenir le guitariste soliste. C'est la sœur de Malcolm et Angus qui a l'idée du nom du groupe en voyant le signe AC/DC sur un aspirateur et une machine à coudre. C'est le symbole en fait du courant alternatif et continu pour les Anglais. Cette même sœur aura aussi l'idée des déguisements pour les membres du groupe. Angus s'essaiera en Spider-Man, en Zorro et même en gorille, j'aurais bien aimé voir ça d'ailleurs, avant d'enfiler sa tenue d'écolier qui ne le quittera plus. En voyant qu'un autre groupe de Sydney se produisait déjà déguisé, il quitte leur accoutrement. Seul Angus restera avec sa tenue. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille au sein d'un groupe de rock, et de 1973 à 1974, pas moins de 3 bassistes et 5 batteurs sont essayés et remerciés. Les frères Young jugent aussi le chanteur inadapté au groupe. Sur scène, il est même parfois remplacé par un autre chanteur, Dennis Logan, avec lequel il s'entend pas du tout. Cela aboutit en 1974 à un changement de chanteur avec l'arrivée de Bon Scott, alors lui aussi écossais et ami du grand frère, et en 1975, le groupe enregistre enfin son premier album, High Voltage, puis compose It's a Long Way to the Top, qu'ils incluront dans leur second album TNT, sorti en 1975. On écoute un extrait de ces deux titres. Entre 1974 et 1977, ils deviennent le groupe de rock le plus connu d'Australie. Enfin, moi, il n'y en a pas foule non plus. Hein. En passant notamment régulièrement dans l'émission Countdown sur une chaîne nationale. En 1976, AC/DC signe avec un grand label, Atlantic Records, qui leur permet de faire une tournée européenne en première partie de groupes comme Black Sabbath, Aerosmith, Kiss, et ils sortent en Europe et aux USA leur premier album avec High Voltage, qui est en fait une compilation des deux premiers albums. En 1977, ils partent faire une tournée américaine où ils s'attirent de nombreux problèmes en volant la vedette des groupes auxquels ils font la première partie. Ils font par exemple un triomphe à New York, où Angus chauffe tellement la salle que le passage des Kiss ensuite sera qualifié d'ennuyeux. En juillet 1979, sort le single le plus connu d'AC/DC avec Highway to Hell. L'album du même nom sera pour une grande partie de leurs fans l'album le plus emblématique de leur musique et le premier à entrer dans le top 100 des ventes américaines. Ils ont fini 17e. On écoute Highway to Hell sur Radio G 101.5, la radio qui fait le boulot. We'll be right back. petit bijou.
Pour la petite histoire, Highway to Hell est le surnom d'une portion de la route qui emmenait de la maison de Bon Scott jusqu'au bar où il avait ses habitudes pour écouter du rock'n'roll et se saouler. Rock'n'roll et alcool, c'est un bon résumé de la vie de Bon Scott à cette époque.
On arrive en 1980. Le groupe se remet au travail pour leur nouvel album. Mais après une soirée fort arrosée à Londres, le chanteur Bon Scott est retrouvé mort, étouffé dans son vomi à l'arrière d'une Renault 5. Il y a des fins quand même qui sont plus glorieuses. Il sera remplacé par Brian Johnson, repéré par Bon Scott d'ailleurs, qui en avait fait la publicité auprès de ses camarades en signalant qu'il était excellent. Le groupe sortira en juillet 1980 leur album le plus vendu, Back in Black, le deuxième le plus vendu au monde après Thriller de Michael Jackson, excusez du peu. On y retrouve des titres mythiques et emblématiques comme Back in Black, Hell Bells, dont l'intro débute par un son de cloche comme un hommage à Bon Scott, et You Shoot Me on Island, dont je vous éviterai la version de Céline Dion. Et oui, il existe bien une reprise de la québécoise qui s'époumonne à nous confier Tu m'as secoué tout au long de la nuit. Les concerts sont spectaculaires, la scène est surmontée d'une cloche en bronze de plus d'une tonne, on écoute des extraits de Back in Black. Que du bon, je vous dis. Le succès continue en 81 avec la sortie de For Those About to Rock We Salute You, excusez mon anglais, qui est un gros succès commercial. Mais de nouveaux problèmes vont apparaître dans le groupe entre Malcolm et le batteur Phil Rudd, qui quitte immédiatement le groupe après avoir enregistré les morceaux de batterie de l'album Flesh of Sweets, sorti en 1983 et qui sera un échec commercial. S'ensuit alors une période de petite traversée du désert avec quelques reprises, des BO de films, ce que le groupe se refusait à faire auparavant. Quelques succès commercial à nouveau en 1988, mais les problèmes s'enchaînent. Malcolm Young, épuisé par son addiction à l'alcool, se fait remplacer par son neveu sur les 110 dates de la tournée américaine. Simon White quitte le groupe et Brian Johnson se rend indisponible pour finaliser son divorce. C'est les aléas d'un groupe de rock. En 1990, retour de Malcolm est sorti de l'album Razor Edge et à nouveau un grand succès commercial avec notamment Thunder Trucks qu'on écoute tout de suite sur Radio G. 101.5, la radio qui fait le point. We'll be right back. 1991, il participe à l'un des plus grands concerts de tous les temps en partageant à Moscou l'affiche avec Metallica et Pantera. Imaginez le concert. Il y aura eu entre 500 000 personnes selon la police et 1,5 million de participants. Le groupe enchaîne les tournées dans les années 2000 sans avoir pour autant réalisé nouvel album, ce qui arrivera cependant en 2008 avec Black Ice. En 2014, Malcolm Young se retire des scènes pour des problèmes de santé et il décédera en 2017. Le nouvel album Rock or Dust sera enregistré avec le neveu de Malcolm, en l'occurrence Stevie Young. On poursuit la lignée des Young. La tournée de 2015 s'effectuera sans son batteur immobilisé en Nouvelle-Zélande pour des problèmes de justice. Et en 2016, Axl Rose, chanteur de Guns N' Roses, reprendra le chant en raison de problèmes d'audition de Brian Johnson, contraint de choisir entre poursuivre et ne pas devenir sourd. Le 16 novembre, sortira le nouvel album Power Up et vous pouvez déjà entendre sur certaines plateformes le premier single Shoot in the Dark. Seul un concert manque désormais au groupe, c'est celui du Hellfest qui serait à mon avis un endroit parfait pour clôturer la story de ce groupe qui aura vénéré le rock au point d'inclure plus de 21 fois le mot rock dans le titre de ses chansons. J'espère que je vous ai donné envie d'écouter ou de réécouter des morceaux d'AC/DC. On se retrouve bientôt avec la story d'un autre groupe, lequel, surprise, en attendant, on poursuit l'émission avec What's the Difference de Dr. Dre.
Back when Q was rolling with Lorenzo and a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you, cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you, and that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is, and who I'm still cool with. Then I got these fake ass niggas I first blew with, claiming they non-violent, talking like they spit venom in interviews, speaking on reunions. Move units, then talk shit, and we can do this. Until then, I ain't even speaking your name. Just keep my name out of your mouth, and we can keep it the same, nigga. It ain't that I'm too big to listen to the rumors, it's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference.
What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dogs down with straight coaches. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dogs down with straight coaches.
Yo, I stay with it while you try to perpetrate, play with it. Never knew about the next level until Dre did it. I stay committed while you motherfuckers babysit it. I smash the critics like an overhand right from Riddick. Come and get it, shitted on villains by the millions. I be catching bitches while bitches be catching feelings. So what the fuck am I supposed to do? I pop bottles and hot hollow points at each and all of you.
Come on,
a heartless bastard, high and plastered. My style is like the reaction from too much acid. Never come down, batch it around. You can't handle it, hang Hollywood niggas by they soul train laminates. What's the difference between me and you?
What?
About 5 bank accounts, 3 ounces and 2 vehicles. Until my death, I'm Bangladesh. I suggest you hold your breath till ain't none left. Yo, that's the difference.
What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dogs down with straight coaches. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dogs down with straight coaches.
Hold up, stop the beat a minute. I got something to say. Dre, I wanna tell you this shit right now. Why this fucking weed is in
the
me?
Fuck?
I don't know if I ever told you this, but I love you, dog. I got your motherfucking back.
Right.
Just know this shit.
Slim, I don't know if you noticed it, but I've had your back from day one. Nigga, let's blow this bitch.
I mean it, dog. You ever need somebody off? Whose throat is it?
Well, if you ever kill that Kim bitch, I'll show you where the ocean is.
Well, that's cool, and I appreciate the offer. But if I do decide to really murder my daughter's mama, I'ma sit her up in the front seat and put sunglasses on her. And cruise around with her for 7 hours to California and have her waving at people.
Aye.
Then drive her off on the corner at the police station and drive off honking the horn for her. Raw dog, get your arm gnawed off. Drop the sword off and beat you with the piece you was sawed off on. Fuck blood, I wanna see some lungs popped up. Get shot up in the hot tub till the bubbles pop up and your nose and cough snot up. You get some hot water. That's for trying to talk like the chronic was lost product. That's for even thinking of having them thoughts thought up. You better show
means it.
What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never deal with emotions. I'm used to living big dogs, stand with straight coaches. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never deal with emotions. I'm used to living big dogs, stand with straight coaches. What's the difference between me and you?
C'est le moment de la chronique BD. Alors Sébastien, qu'est-ce que t'as pour nous ce soir ?
Ce soir pour ma chronique BD, je voudrais vous parler d'un manga et d'un roman graphique. D'abord le manga, c'est La couleur tombée du ciel de Gutanabe. Gutanabe est un interprète. Plutôt que d'imaginer des histoires, il préfère les adapter, se les approprier pour en donner une version graphique souvent saisissante. Fasciné par l'œuvre de l'écrivain américain Howard Philip Lovecraft, 1880-1937, le mangaka a entrepris depuis 6 ans de la transformer dans son intégralité en bande dessinée. Non sans succès d'ailleurs, puisque après la parution des Montagnes Hallucinées en 2018, l'édition française de Dans l'abîme du temps a reçu cette année le prix de la meilleure série au Festival d'Angoulême. Un travail de longue haleine donc, dont le nouvel opus publié aux éditions Kihun, La couleur tombée du ciel, perpétue l'exigence. Paru en 1927, cette histoire raconte comment, à l'occasion de repérages dans une vallée bientôt engloutie sous les eaux d'un barrage, un jeune ingénieur pénètre dans une lande maudite. La découverte graduelle d'une abomination venue des étoiles, les hallucinantes transformations des plantes, des animaux et des hommes, le malaise diffus et oppressant qui émane de l'endroit, la langue particulièrement choisie, la puissance extatique incantatoire des descriptions ont fait de cette nouvelle l'un des morceaux de bravoure de la littérature américaine. Adapter l'œuvre pétrie d'horreurs indescriptibles, de fantastiques noirs et de maléfices immémoriaux de l'auteur du Necronomicon et du mythe de Cthulhu n'est pas chose aisée. Beaucoup s'y sont cassés les dents, mais à l'évidence, le dessinateur japonais a trouvé la formule. S'il ne brille pas avec les personnages, son trait nerveux et minutieux, son sens du découpage, son goût pour l'anamorphose et l'hybridation, sa science du blanc et de la lumière font à nouveau merveille. À ne pas feuilleter avant d'aller se coucher. Deuxième BD ce soir, Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Jumeaux antagonistes, inséparables, tels sont Carbone et Silicium. Baptisés ainsi par l'équipe de chercheurs qui les a créés, les deux robots incarnent une toute nouvelle génération d'androïdes. Dotés d'une intelligence artificielle qui leur permet autant de calculer que de ressentir, ces prototypes s'affranchissent vite des limites imposées. Destinés aux besognes que l'humanité ne veut plus faire, Carbone choisit peu à peu d'incarner la révolte, tandis que Silicium préfère prendre la clé des champs et visiter la planète, le plus loin possible des hommes. Au fil du temps, pourtant, et des corps qu'ils habitent, quelque chose les pousse à se retrouver. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est robot ? Si la puissance du lien parvient in fine à triompher des obstacles, on est moins ici dans l'univers pastel de la chanson de Juliette Gréco que dans celui de la collapsologie et du conte philosophique. Sur quelques 300 pages, Carbone et Silicium ne cessent de disserter sur la nature humaine et son imperfection, écartelée qu'elle est entre la poursuite de l'intérêt général et l'assouvissement de désirs individuels. Beaucoup traité en SF depuis les romans d'Isaac Asimov dans les années 1950, et récemment dans Detroit Become Human, un remarquable jeu vidéo imaginé par David Cage, la question du statut et du devenir de robots plus humains que leurs créateurs prend ici l'allure d'un débat. Comme dans Candide ou Zadig, les personnages et les décors sont des prétextes, seuls comptent idées et arguments. Là s'arrête le rapprochement avec Voltaire, car s'il est juste et pertinent, ce dialogue manque hélas de légèreté et de malice. Tout en ocre et en tableau, Mathieu Bablet poursuit à petits pas l'exploration de ce que pourraient être nos futurs. Moderato plutôt que fortissimo. Je vous rappelle les références des deux bandes dessinées ce soir. La couleur tombée du ciel de Gutanabe, traduit du japonais par Sylvain Chollet aux éditions Kihun, 186 pages, 15 euros. Et Carbone et Silicium de Mathieu Bablet aux éditions Ankama, 272 pages, 22,90 euros.
Merci beaucoup Sébastien pour ces deux BD.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Retour à la musique maintenant avec Alain Souchon qui se pose une question que beaucoup d'entre nous se sont posées. Et s'il n'y a plus personne sur Radio G 101.5, radio qui fait le point.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. En plus, il n'y a personne. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel
maintenant à la rubrique Internet. Alors Sébastien, tu voulais nous parler peut-être de quelques youtubeurs.
Je vais vous parler de Game of Earth et des bonnes questions. D'abord Game of Earth. C'est au début de l'année dernière que cette vulgarisatrice et médiatrice scientifique décide de se lancer sur YouTube. Nom de code Game of Earth. Un clin d'œil à la série américaine Game of Thrones. On y trouve des conflits rapides, des alliances et des mésententes, un peu comme dans l'histoire des idées, explique-t-elle. Mais aussi une référence au mot « hearth » avec un H, la pierre du foyer en anglais. Les problématiques liées au lieu de vie étant centrales dans les pensées du féminisme et de l'écologie politique. Alors le pitch, intersectionnalité, spiritualité, biologie évolutive, Game of Earth aborde les très nombreux débats qui traversent les sphères écologistes et féministes. À l'aide d'illustrations populaires, de schémas et d'explications structurées, la vidéaste rend sa réflexion accessible aux profanes, sans négliger la complexité des sujets abordés. L'objectif est généreux, donner accès aux textes qui servent de base conceptuelle à toutes ces notions politiques. S'il ne fallait voir qu'une vidéo, Monique Wittig, La pensée straight, paru d'abord en anglais dans les années 90, l'ouvrage de Monique Wittig, La pensée straight, propose de définir l'hétérosexualité non seulement comme une orientation sexuelle, mais également comme un régime politique. Il préconise, en guise de conclusion, l'abolition pure et simple des catégories de sexe, autant de théories âprement discutées et pas forcément faciles à appréhender, mais qui sont ici vulgarisées avec une clarté réjouissante. Deuxième chaîne YouTube ce soir, Les bonnes questions. Quelques Belges curieux et curieuses du monde qui les entoure et qui se demandent des trucs. Seul visage à apparaître à l'écran parmi cette petite équipe, Octave Daube trouve le temps de tourner des vidéos entre deux sessions d'examen à l'Université libre de Bruxelles, où il étudie les mathématiques et milite au sein du mouvement des jeunes du PTB, le Parti du Travail de Belgique. Le pitch. Parfois, quand on se pose de bonnes questions, on a des bonnes réponses. Un slogan a priori assez flou, mais qui permet à la chaîne d'aborder de nombreux sujets à travers des angles originaux. Réchauffement climatique, Troisième Guerre mondiale, division de la Belgique. Si les thématiques choisies sont souvent liées à l'actualité du moment, l'équipe prend soin d'éviter toute impression de déjà-vu, avec un positionnement à gauche très clairement assumé. Résultat, des réflexions audacieuses et efficaces, desquelles on ressort toujours avec le sentiment d'avoir appris quelque chose. S'il ne fallait voir qu'une seule vidéo, où est passé tout le PQ? Souvenez-vous, au début de l'épidémie de coronavirus, les citoyens européens se précipitèrent dans les supermarchés en achetant d'énormes quantités de papier toilette. Égoïste et absurde? Pas forcément, car, comme l'explique la vidéo, le phénomène a des racines profondes et structurelles qu'il convient d'interroger. Retard à l'allumage des décideurs politiques, crise latente de l'hôpital public, règne de la concurrence, une passionnante déconstruction au-delà de tout jugement moral. Je vous redonne les références de ces deux chaînes YouTube, Game of Hearth avec un H et Les bonnes questions.
On a encore un petit peu de temps, Sébastien, est-ce que tu aurais d'autres YouTubeurs à nous présenter ?
Je vais vous parler de Les langues de chat et de Sonia Liu. D'abord Les langues de chat. La curiosité, est-ce que c'est un vilain défaut ? Certainement pas pour Charlotte Barbier, doctorante en sciences de l'éducation et actuellement en pleine thèse sur la formation de l'esprit critique chez les enfants. Cette ancienne étudiante en didactique des langues et en coréen, excusez du peu, a pris le tournant de la vulgarisation en 2014. J'avais envie de partager des choses que j'apprenais et qui m'intéressaient tout simplement, assume la touche à tout de 27 ans, qui a trouvé le bon jeu de mots pour nommer sa chaîne, Les langues de chat. Le pitch. Sciences sociales, anthropologie, linguistique, Charlotte Barbier parle de tout ce qui lui plaît, avec une mention spéciale pour la sociologie. Cela me permet de creuser des sujets que je ne peux pas étudier dans le cadre de ma thèse, indique-t-elle infatigable. Une manière aussi de prendre sa revanche face aux sciences dites dures, mieux valorisées. Pour moi, c'est surtout une volonté de partager des disciplines qui sont souvent peu accessibles aux néophytes, complète la vidéaste. La voilà donc qui explique comment les ados utilisent YouTube, pourquoi nous disons tant bonjour ou les logiques de la culture enfantine. S'il ne fallait voir qu'une vidéo, ce serait celle sur le McDo. Pour contrer la fameuse blague qui associe les études de sociaux à une future carrière dans un fast-food, Charlotte Barbier a choisi l'humour. Dans un retournement de situation savoureux, elle prend le parti de parler des études de sociologie concernant la chaîne de restauration et ses salariés. Malin. Sonia Liu, LWU. Des couloirs d'un EHPAD où elle exerçait, Sonia Liu, ancienne psy en gérontologie de 28 ans, a tout plaqué pour reprendre des études en criminologie. Je suis revenu à ma passion première, soutient cette mordue d'affaires glauques, nourrie aux faits divers depuis son adolescence. Un attrait pour le passage devant la caméra, et le tour était joué. La voilà à l'abordage de YouTube en 2018 pour parler d'affaires criminelles. Le pitch. Je vous laisse vous installer confortablement et éteindre vos lumières. C'est parti. Sur ces bonnes paroles et après un générique angoissant, Sonia, toujours savamment maquillée, peut commencer à raconter des histoires. Tueurs en série, sectes, féminicides, ces objets d'étude touchent tous aux crimes qu'ils soient contemporains, comme les attentats commis par Anders Breivik en 2011, ou légèrement plus anciens, tels les multiples empoisonnements élaborés par Hélène Jégado au XIXe siècle. Sordides, incommodants, les cas choisis, souvent à l'instinct par la psychologue, n'ont pas seulement le goût du sensationnel. J'essaie d'expliquer les passages à l'acte et les mécanismes psychiques mis en œuvre. avec une envie aller au-delà de la curiosité morbide. S'il ne fallait voir qu'une vidéo, ce serait celle sur l'affaire Céline Lesage, coupable du meurtre de 6 de ses nouveau-nés. Son affaire permet à Sonia Liu de faire le point sur les néonaticides et les raisons psychologiques pouvant être impliquées dans ce type de crime. Une mise en contexte instructive réalisée avec distance. Je vous rappelle les deux chaînes YouTube Les Langues de Chat et Sonia Liu, S-O-N-Y-A-L-W-U.
Merci Sébastien pour ce petit tour d'horizon de ce qui se passe sur YouTube. On poursuit maintenant en musique avec un morceau de 1985 d'un de mes groupes préférés, Dire Straits, avec le titre Money for Nothing et le plaisir d'entendre la voix de Sting dessus. Money for Nothing sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Money for nothing and your chicks for free. Money. it for nothing.
Pour finir cette émission, je vous propose d'écouter un morceau tout à la voix, sans instrument, que de l'espoir et du plaisir. Quelque chose, moi, qui me met la banane à chaque fois, Bobby McFerry et Don't Worry, Be Happy. Salut à tous et à la semaine prochaine sur Bang Geek Mafia.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry,
be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
The day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Radio G, 101.5 FM.